La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du 12 mars 2017. Alors, j'accueille ce soir l'artiste multidisciplinaire Émile Morin, qui va nous présenter sa toute récente création sonore et cinétique qui s'intitule Drone. Et en écoute de deuxième partie, deux pièces du trio bruitiste montréalais Dead Squirrel. Mais d'abord, en guise de préambule, je vous propose d'écouter la pièce If God Were Alive, et you could reach him by telephone. Donc, si Dieu existait, on pourrait le rejoindre par téléphone. C'est une pièce de Paul de Marinis, publiée sur étiquette Lovely Little Records en 1980. La pièce est tirée d'une installation intitulée Le Pygmé Gamelan. Paul de Marinis est un artiste américain. C'est une figure importante de l'art sonore contemporain. Particulièrement intéressé par l'histoire des technologies, l'art et la science. Il a présenté ses œuvres à quelques reprises à Québec, dont une qui s'intitule Rain Dance, qui a été présentée au Parc Saint-Roch en 2008, je pense, dans le cadre de Québec 2008, organisé par le Mois Multi. Et il est, entre autres, une source d'inspiration dont nous parlera Émile Morin tout à l'heure.
Yes.
Alors voilà, nous y venons, Émile Morin, que j'ai rencontré il y a quelques semaines maintenant. Le projet Drone est une œuvre d'Émile Morin, une œuvre cinétique et sonore imaginée autour du piano droit, dont il a réduit, je vais dire ça comme ça, à un silence relatif ses principales caractéristiques. Donc, le clavier de l'instrument et les cordes, notamment, sont inopérants, inopérantes. Il en détourne la fonction usuelle, donc en jouer, et il en fait de ce piano un objet performant, une sorte de machine qui bouge, qui observe, qui s'agite, qui rugit, même qui respire, donnant à penser qu'il est animé, ce piano, par une force intérieure. Alors, le titre des extraits sonores qu'on va entendre de Drone sont d'ailleurs très évocateurs. Alors, je les nomme John Slow Piano, On dirait qu'il respire, La tête de l'ours, et vous pourrez retrouver tous les titres des extraits qu'on va entendre de ce drone sur notre page web, dont je vous donnerai l'adresse plus tard. Donc, comme le mentionne Émile, Drone, c'est une installation numérique qui est toute contenue dans une enveloppe analogique qui résulte de l'hybridation d'un système de simulation et d'un objet sonore reconnaissable entre tous, le piano. Alors, il s'agit d'une machine visuelle et sonore dont les tonalités empruntent au bourdon sonore, ce qu'on appelle le drone sur le plan musical, mais aussi ça emprunte à l'autre drone qui est le drone militaire. Et là, je vais citer Émile qui dit que le titre de la pièce, Drone, raconte ou évoque l'image de ces objets volants de surveillance utilisés pour des survols de reconnaissance ou encore des attaques parfois meurtrières. Alors, le terme résonne avec l'objet qui porte son propre système de surveillance et de mise en scène. Alors ça, c'est Émile qui nous raconte ça sur son site personnel. Alors, je vous rappelle qu'Émile Morin est un des fondateurs de Production Recto Verso à Québec. Il a œuvré au sein d'Avatar et a assumé la direction artistique de nombreuses éditions du Mois Multi, ce festival multidisciplinaire qui est présenté à Québec en février de chaque année. Émile a réalisé des installations et des œuvres multi sur le plan scénique, dont l'une des plus connues est sans doute celle qui s'intitule Un paysage, un landscape, un landschaft. Alors, sans plus tarder, on écoute Émile Morin et des extraits sonores de son projet intitulé Drone. Émile Morin, bienvenue à La Croche-Oreille.
Merci de m'inviter à La Croche-Oreille.
Émile, ça fait un petit bout de temps tout de même qu'on se connaît. T'es difficile à définir comme artiste parce que t'as un parcours assez impressionnant, je dirais, depuis au moins une trentaine d'années avec le groupe de Matane. Je rentrerai pas dans le détail, mais j'aimerais que tu me parles de cette trajectoire d'artiste. Comment ça démarre, à grands traits évidemment, mais comment ça démarre et quel serait le point tournant, je dirais, dans cette trajectoire-là?
Bien, les points tournants sont une quarantaine d'années de pratique, faut dire. Il y en a quelques-uns, mais probablement, c'est le départ, évidemment, ça a commencé à Matane, comme tu l'as dit, autour du cégep de Matane. Je suis allé étudier là en photo. Ça n'a pas duré longtemps pour moi. J'ai étudié en art ensuite dans l'année qui a suivi. Et c'est là, dans les mêmes années, qu'a été créé le groupe qui s'appelle Recto Verso, qui existe toujours, et que j'ai lancé avec huit collègues. Là, le groupe a évolué. Mais à l'époque, donc, j'ai étudié en art visuel. Et le Recto Verso était basé, dans ses premières lancées, était autour de la question du théâtre, un théâtre qui est devenu très rapidement expérimental. Et donc, c'était l'artiste en art visuel qui travaillait sur le plateau du théâtre ou de la dramatique. Puis ça, c'est probablement une donnée assez importante parce qu'il y avait les deux, le croisement des deux. Donc, très rapidement, le scénographe appelé chez Recto Verso c'était l'artiste en art visuel qui était en action à travers le scénographe chez Recto Verso. Et très rapidement, chez Recto Verso, on s'est mis à créer des trucs qui s'appelaient des installations scénographiques. Puis si on marque la teneur du terme, il y a l'installation, évidemment, qui est liée au milieu des arts visuels, et il y a la scénographie, évidemment, qui est liée au théâtre. Et c'est important de la jonction des deux. À l'époque, je travaillais avec Berry Bergeron, on tenait à ça parce qu'à la fois, ce qu'on prétendait vouloir faire, c'est qu'on crée des espaces qui allaient servir le théâtre, donc pour la scénographie, mais des espaces qui devaient, au sens des arts visuels, se défendre. Être capable d'être regardé seul et qu'on dise « Ah oui, c'est une belle installation. » Et ça, pour moi, c'est probablement défini assez bien la lancée qui a poursuivi et qui est un croisement des langages, l'idée de l'interdisciplinarité dans ma pratique.
Cette idée d'interdisciplinarité, comment elle se développe au cours des dernières années, de ton point de vue? On est dans un contexte où il y a beaucoup d'hybridité, il y a beaucoup de mixité. Josiane Desloges utilisait l'expression Émile Morin, l'art des croisements. Et comment tu vois le développement de ces formes-là au cours des dernières années?
Ben, moi, ce que je constate, parce qu'encore là, on a été de ceux qui ont participé à faire émerger, je dirais, un langage, un discours autour de cette idée des pratiques interdisciplinaires. Maintenant, ça va être plus de soi. Je remarque surtout chez les jeunes créateurs que c'est le croisement de ces frontières, des frontières de disciplinaires, disons, quand on s'attarde à l'art, se fait beaucoup plus facilement, de manière naturelle, et beaucoup de monde ne le réfléchissent pas et ne tiennent pas à le réfléchir. C'est peut-être pas nécessaire, mais pour moi, ça l'est toujours. Dans la mesure où réfléchir ça, c'est comprendre comment justement ce passage d'un langage vers l'autre s'opère. Et de là, quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse d'une manière beaucoup plus profonde à l'écriture qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, 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 qu'est-ce, qu'est-ce qui en émerge. Et je pense que ça, c'est important. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui est peut-être pas encore si finement enseigné dans les écoles. Cette relation, on apprend que oui, on peut faire un croisement de langage dans les œuvres, puis on l'applique, puis on est libre de le faire, et puis ça va dans la pratique de beaucoup d'artistes. Mais comment ça se réfléchit? Et pas toujours, pour moi... C'est pas toujours une affaire qui est terriblement poussée dans la réflexion de certains artistes, et je pense que c'est quelque chose qu'on manque. Moi, j'y tiens. Je pense que de là, on livre des œuvres beaucoup plus complexes. D'ailleurs, si on parlait de l'art des croisements, quand on parlait de ma pratique, chez Recto Verso, on a parlé d'une esthétique de la complexité. Donc, c'était quand même une affirmation qui était particulière et un peu singulière, c'était ce mot un peu lourd, du complexe, voilà, où est-ce que ça mène, et des trucs comme ça. On a voulu construire quelque chose qui assumait une complexité, qui assumait la complexité de la multiplication, la jonction des langages, et c'est quelque chose sur lequel je pense encore tenter d'opérer.
Tu tends les doigts sur un soleil trop fort. À cause de la faiblesse des gradateurs. Puis, tu penches la tête vers l'eau, en oubliant qui a fait ça. Tu n'entends plus un oiseau mince qui chante aigu. Tu t'avances sur le tablier du pont. Quelqu'un dit « Prenez garde ». Il n'y a qu'une chaîne. La poussée, tu l'as fait déchausser. Reste de l'eau qui jute et un trou dans la salive, comme une vis sans pas de vis. Le capitaine arrêta son bateau et alerta par téléphone le quai des pilotes.
Yes.
Émile, tu as présenté il y a quelques mois maintenant chez Avatar une pièce, une œuvre qui s'intitule « Drone ». Sur le site d'Avatar, on ajoute « et la feinte d'Avatar », la feinte, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me parles de ce projet puis que tu nous le décrives dès le départ, parce que là, je garde le silence, mais j'aimerais que tu nous décrives cette œuvre-là puis que tu, peut-être dans un deuxième temps, que tu me parles de sa genèse.
Ben, drone, en fait, c'est une installation. C'est comme ce qui est peut-être important de dire aussi dans ma pratique. On a parlé de Recto Verso, le travail scénique. Depuis 20 ans, je travaille beaucoup sur des installations. Ça a pris beaucoup plus de place dans ma pratique. Et c'est une de celles-là. Et je m'intéresse dans beaucoup des pièces, au détournement d'objets qu'on reconnaît, des détournements d'objets usuels ou des icônes, on dirait, de nos cultures. Alors, dans ce cas-ci, c'est un piano droit. L'objet est reconnu à peu près par n'importe qui sur la planète. Et par contre, il a subi une ablation, l'ablation de son mécanisme qui permet au piano de jouer, ce martèlement des cordes. Donc, on ne peut pas jouer le piano. L'objet est intact, mais son mécanisme, on a retranché cette mécanique-là, ce qui est assez important de nommer. Et après ça, je l'ai transformé d'une manière assez singulière. Il est composé de, disons, trois systèmes. Un premier qui permet, avec quatre actuateurs mécaniques, permet de faire trois mouvements vraiment très visible, on va le dire, sur l'engin, permet une élévation du tangage et du roulis. Donc, on est devant l'objet, j'allais le dire la bête, parce que ça devient presque une bête quand on le voit, et il va vraiment avoir des mouvements mécaniques qui sont très surprenants pour un objet de 800 livres. Et deuxième mécanisme qu'il intègre, c'est un mécanisme qui génère les sons. Donc, j'ai gardé la boîte, la table d'harmonie, les cordes sont là, mais j'utilise des actuateurs sonores, ce genre d'actuateurs, c'est des qui mettent en vibration les masses. Et il y en a six dans le système, et c'est eux qui mettent en vibration toute l'enveloppe du piano, la table d'harmonie. Donc, j'envoie des fréquences sur les composantes du piano et ça met en résonance. Et souvent, je travaille avec ce système-là avec des fréquences très simples. Parfois, j'envoie 300 Hz, mais il est fragmenté. J'emploie de la synthèse de granulation sonore. Et là, ça devient un son tellement complexe avec la résonance des cordes, l'harmonique que ça crée, qu'on ne connaît pas vraiment. Enfin, on n'imagine pas que ça émerge d'une fréquence simple de 300 Hz. Et le troisième système est un système de vidéo, on va le dire, composé d'un écran qui est intégré au devant du boîtier et d'une caméra qui est pointée derrière. Et tout au long du déroulement de la pièce, moi, je travaille avec l'image recueillie par la caméra arrière qui est réintroduite souvent par délai, diverses stratégies, on va dire, donc réintroduit dans l'écran avant. Donc, c'est les trois systèmes mis en place. Ce qui est important de nommer pour finir ça, j'ai nommé au départ le système qui permet le mouvement. Ben, l'écriture de drone, elle est autour du mouvement. Le mouvement, c'est le premier jeu, c'est la première écriture, celle qui mène le reste, celle qui est translatée, j'emploierais pour sembler intelligent, mais j'aime bien l'idée de la translation, c'est un genre de déplacement vers un autre langage. Donc, une translation des mouvements vers la résonance sonore, vers une mécanique de l'image.
Si tu veux, Émile, on va écouter un extrait de drone. Le projet drone, Émile, qu'est-ce que ça développe en termes de relations avec le public?
Ben, ça est relié à des œuvres antécédentes où je prétends, où j'ai prétendu souvent, et c'est peut-être plus évident dans les œuvres scéniques au départ, du moins, à me poser une question sur les conditions d'écoute du spectateur. Les œuvres que je crée, même si c'est très, très subtil, pour moi, je questionne quelle relation je veux opérer avec le spectateur visiteur ou voyeur, on le nommera comme on veut. Dans ce cas-ci, ben, les gens sont face à un objet donc qu'ils reconnaissent et qui les surprennent de prime abord quand on connaît pas la pièce. Tout à coup, on arrive en salle et on voit le gros objet qui se met à bouger. C'est très, très surprenant. Il y a vraiment une première étape de surprise. Et on est aussi face à un système d'écriture que j'emploie beaucoup, qui est l'idée d'écriture par séquence. Donc, il y a des séquences de mouvements qui sont créées. Pour la présentation à Avatar, j'avais créé 12 séquences, je crois, qu'ils ont tous nommé une de celles-là. C'est la fin de l'Avatar, la fin. Qui a sa propre séquence de mouvement, son propre mode opératoire en termes sonores. Donc, chacune des séquences opère en termes de mouvement d'une manière assez distincte et résonne d'une manière très, très, très différente. Donc, là, pour le spectateur, pour revenir à ta question, une condition de présence, une condition de croiser l'œuvre seul à un temps précis. Et quand il vient à un temps précis, il va voir là une séquence précise. Il se revient 40 minutes plus tard, il risque de revoir la même séquence, puis dans cette séquence-là, il risque de peut-être être passé derrière le piano ou le drone et d'avoir été capturé par la caméra et tout à coup voir la trace de son passage à l'intérieur de ça. Il y a un risque de ça. J'aime bien cette idée de l'art visuel qui perpétue ce qu'on retrouve dans d'autres secteurs de l'art, cette idée de raconter, de porter un récit. L'idée de la séquence, c'est potentiellement une manière d'opérer ça. On raconte. Est-ce que c'est une histoire? J'ai aucune idée, mais on raconte quelque chose.
Je sais que depuis plusieurs années, l'art sonore, l'art des sons, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance serait dans ta vision du monde. En regardant les programmations du mois multi, il y a toujours eu un volet d'art sonore extrêmement important. Et je me demandais à quel moment le son apparaît dans tes préoccupations d'artiste ou de commissaire.
Encore là, les origines, parcours scénographique par exemple, ou le dispositif sonore de cette œuvre-là qui était faite par Recto Verso est extrêmement importante. L'idée de la stratification des sons, des spectateurs qui avaient des écouteurs sur les oreilles pour pouvoir entendre la voix des comédiens. Au théâtre, c'était assez provocant. De là, pour moi, découle toute une compréhension du son comme une matière, peut-être, un objet, une matière, une manière de définir l'espace, de définir notre relation à l'espace, de définir l'espace, de moduler l'espace dans lequel on est. Alors, si on revient à drone, d'une certaine mesure, ça porte ça, cette résonance-là, ce passage par une séquence à l'autre, une résonance différente. C'est pas tant une écriture au sens pur de l'art audio, ou dire je vais écrire une trame sonore qui me semble intéressante. Elle est conséquente du mouvement. Il y a donc là l'idée d'un jeu de traduction, mais elle est conséquente, mais elle doit aussi jouer son rôle de définir d'une manière claire un espace fort pour cette œuvre-là. Et beaucoup pour moi, on imagine que c'est tout l'aspect visuel qui tient ce rôle-là, mais j'estime avec le temps, avec ma pratique, que c'est beaucoup une question d'oreille.
C'est intéressant. Dis-moi, en parlant d'oreille, de son et d'écoute, quelles sont tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui t'a marqué ou influencé là, par la suite dans le choix des pièces sonores ou des artistes qui œuvrent dans ce champ d'activité?
C'est un peu difficile sous certains angles, sur l'idée du dispositif d'une œuvre dont le dispositif est central et important, c'est très, très majeur dans ma pratique pour drone, c'est ça, c'est la création au départ d'un engin, d'un apparatus, d'un dispositif qui va ensuite avoir sa propre logique, son propre fonctionnement. J'y porte beaucoup attention. Ben, des pratiques comme celle de Paul Demarinis avec son Edison Effect d'une vieille époque que j'ai vu en 92, que on avait présenté à Obscure à l'époque, ont été marquants pour moi. Les rencontres, les croisements avec des Michael Snow, j'estime être un descendant de Michael Snow, si on pourrait dire, d'une grande influence pour moi, des gens qui ont réfléchi justement l'appareillage, l'idée du comment l'appareil porte le discours, comment il l'écrit, comment on fait à travers les appareillages une écriture de l'œuvre. Et ces deux artistes-là sont pour moi marquants. Pour ce qui est de l'usage de l'usage au travers des pièces, les influences qu'on a, ben il y en a plein. Il y a tu parlais du mot multi, j'ai présenté les frères des Costères, par exemple, avec Cycloïde. On se rappelle de ça. C'est vraiment le mécanisme selon ces schèmes de rotation bien précis qui va décider de la résonance de l'œuvre à un temps précis. Elle se répète, mais elle se répète pas d'une manière exacte. Pour drone, c'est exactement ce principe-là. C'est le dispositif qui est le créateur de la résonance de l'œuvre.
Émile, toujours actif dans le champ des arts multi, des nouvelles formes artistiques. J'aimerais que tu nous parles de tes projets actuellement.
Ce qui est à dire, je suis en train de faire un doctorat présentement. Est-ce que c'est intéressant? Ça se permet de... Donc, à l'UQAM, département d'études et pratiques des arts, c'est de faire un retour et poser un regard plus précis sur l'ensemble de la pratique. C'est vraiment très impliquant, mais extrêmement intéressant à faire. À l'intérieur de ça, présentement, je fais une résidence qui est très singulière à Sporobol, à Sherbrooke, un croisement de l'art et la science. Je travaille avec des chercheurs du département de génie acoustique de l'Université de Sherbrooke et on tente de voir le croisement de deux territoires de recherche, celui de l'artiste et celui des scientifiques. Et je travaille aussi avec un groupe de recherche à Montréal mené par Jean Dubois sur l'image opératoire. C'est des trucs qui m'allument parce que c'est le temps de la recherche assumée. Parce qu'on est ça, nous, artistes, des chercheurs, quand on décide de le faire vraiment. Et ça me permet aussi de réaffirmer quelque chose qui est devenu important pour moi. Prendre le temps de la création, pas tomber, c'est pas le bon verbe, mais pas me sentir obligé de l'urgence de la création, d'apparaître chaque année avec une nouvelle pièce. J'aime bien prendre le temps de faire émerger des œuvres. Et ce territoire de recherche-là est intéressant parce qu'il m'amène vers ça. Et je me permets ça d'une manière très assumée et ça me plaît énormément de vivre ça.
Émile, j'y vais d'une dernière question concernant plus la pratique des arts multidisciplinaires actuellement, l'importance que prend la culture numérique dans la création artistique en tant que telle. Comment tu vois l'avenir des nouvelles formes, des pratiques actuelles? Comment tu vois le développement de tout ça?
Ben, ce que je vois, c'est ce qui est déjà en branle pour certains praticiens, beaucoup de vieux praticiens ou des vieux comme moi, hein, quand même, on a là assumé depuis longtemps une pratique hybride qui se foutait pas mal du silo de la discipline, mais où le concept est important. Après, on voit comment l'œuvre peut être réalisée, par quels moyens, de quel croisement il opère. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui prétendent à ça, qu'ils le vivent. Comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense que ça devrait être mieux compris, par contre, et parce qu'on s'élèverait à un autre niveau encore. Je trouve que la pratique au Québec est extrêmement forte et puissante. Elle se doit d'être mieux comprise quand on l'opère. Je pense que ça sert les artistes eux-mêmes, c'est pas juste une question d'analyse. Mais j'aime bien ce décloisonnement-là, je pense qu'il s'opère, je pense que les institutions prennent du temps à répondre à ça. Ça réagit doucement, et plus on se libérera de ça, je pense, mieux on s'en portera.
Émile Morin, merci beaucoup pour cette belle entrevue.
Mon plaisir.
Alors voilà, c'était cette entrevue avec Émile Morin. On peut retrouver sur le site emilemorin.me beaucoup de documentation sur ce projet drone ainsi que sur les œuvres qu'a réalisées Émile Morin au cours des dernières années. Alors on va prendre une courte pause et on va enchaîner immédiatement avec une deuxième pièce de Paul de Marinis. Une pièce qui s'intitule « The Edison Effect », une pièce à laquelle Émile Morin a fait référence en entrevue. Alors, on se revoit dans quelques minutes.
To join, to take into a state of intimacy.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
À quoi tu penses?
Les 31 mars, 1er et 2 avril, c'est le Radiotemps à CKRL.
Donc il y a une quantité d'ordre qui est parfaitement déterminée.
Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive.
Ou bien éclatante, ou bien doucement éteinte.
C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés.
J'en ai repéré certains.
Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre.
Tiens, pourquoi pas?
De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don.
La télé, c'est pour tout le monde.
Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs.
La radio, c'est pour moi.
La Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier.
Est-ce que vous avez autre chose à me dire?
Votre soutien demeure essentiel.
Dans la radio.
Merci d'écouter CKRL.
Je confirme.
Je me sens beaucoup moins seule.
La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Alors, on vient d'entendre un extrait sonore d'une installation réalisée en 1989, par Paul de Marinis, une pièce qui s'intitule « The Edison Effect », l'effet Edison, une pièce à laquelle Émile Morin faisait référence tout à l'heure en entrevue. Alors, l'effet Edison, c'est une série de dispositifs, on pourrait même dire une série de sculptures technologiques qui réinterprètent les premiers balbutiements de l'enregistrement sonore, dont Charles Crowe et Thomas Edison, notamment, sont les pionniers. Alors, pour résumer, l'œuvre de Marinis propose une sorte de relecture des premiers enregistrements sonores à partir d'un dispositif de lecture des anciens cylindres, soit métalliques, soit de cire, ainsi que relecture des disques de gramophone à l'aide de faisceaux laser, donc le faisceau laser qu'on utilise depuis une trentaine ou une quarantaine d'années pour la lecture des CD. Alors, comme le raconte Paul de Marinis, les sons qu'on entend ou qu'on a entendus tout à l'heure vont de reconnaissable à distordu, quelque chose qui ressemble à une radio à ondes courtes à distante ou encore à des mélodies de l'inframonde. Donc, un travail qui unit art et science, dont Paul de Marinis a été un grand instigateur et source d'inspiration pour Émile Morin. Alors, voilà pour ce qui est de Marinis. Je vous propose d'enchaîner avec deux pièces d'un groupe montréalais qui s'appelle Dead Squirrel. Un trio fondé en 2015 qui est composé d'Alain Lefebvre, d'Émilie Payeur et de Philippe Vandal. Il s'agit de musiciens, d'expérimentateurs sonores qui puisent leur sonorité dans l'univers de la synthèse modulaire, le field recording, la boucle sonore et les signaux émis par des appareils électroménagers. On va dire ça comme ça. Ils utilisent aussi des instruments de musique traditionnels comme le saxophone et la batterie. Alors, on dit du trio Dead Squirrels qu'ils développent une esthétique qui englobe, et là je cite, la notion de test, de transgression et de fragilité. Alors, ce soir, on va écouter d'abord une pièce qui s'intitule GMK. C'est un titre audio numérique créé par Philippe Vandal. Ça sera suivi d'une pièce issue de leur premier album, publié sur l'étiquette Microclimat, qu'on retrouve sur le site de Bandcamp. Donc, c'est un album intitulé Sound Pressure Exercises. Alors, on retrouve sur cet album-là une sélection d'enregistrements de performances qui ont eu lieu, qui sont tenus en 2016. Alors, on dit de l'album que c'est une puissante confection de langage sonore propre à chacun des musiciens, où le minimalisme côtoie l'explosion sonore expressionniste. Alors, c'est ambitieux, mais je crois que c'est proche de la vérité. Alors, sans plus tarder, on écoute GMK et un enchaînement avec un extrait de Restless, Champagne, tout ça, Transistor, j'aime ça. Alors voilà, on y va avec le groupe Dead Squirrel. Thank you. Alors voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, sur les ondes de CKRL 89,1. Je vous rappelle le Radioton de CKRL qui se tiendra très bientôt. Une invite à devenir membre ou à renouveler votre carte de membre. Alors, bonne semaine et prenez soin, soyez attentifs au son autour de vous.
Croche-oreille vous a été présenté par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.